Vous écoutez le Tarot de la Cité.
Et bonjour à tous, on est mardi 9 décembre dans les studios du Ciel à Grenoble avec notre invité Gaspard Pitiot.
Bonjour.
Alain.
Bonjour.
Bastien La Technique, salut. Et bonjour à vous, si vous êtes au rendez-vous ou là comme par hasard. On ouvre la Cité des Interdits. C'est un jeu radiophonique où on s'amuse à décrire des cartes pour peut-être aider à l'écriture d'un livre. Et là, le jeu, cette année, est de cheminer pour aller trouver quelle pourrait être notre utopie ou notre idéal, enfin, plutôt celui de l'invité à chaque fois.
Tout à fait.
Mais ça peut être à nous, si nous sommes en lien, peut-être, je ne sais pas. Alain, tu as quelques mots
Je voulais dire la très grande surprise que j'ai eue avec Harry, c'est qu'il a trouvé lui-même, sans le savoir, son utopie. Il a prononcé exactement celui que nous avons pu identifier dans l'enquête que nous avons menée ensemble. Et c'est lui qui nous a mis sur la voie, sans même qu'on se rende compte que le mot « révélation » est venu de lui-même. Et quand on lui a dit, tout d'un coup, ça l'a ouvert, ça l'a rendu heureux.
Oui, il était très content.
Oui, il avait une grande satisfaction de... Voilà, donc c'est pour parler de ce que nous faisons dans cette émission.
Alors Gaspard, est-ce que tu es prêt pour ce jeu?
Ouais, je suis tout à fait prêt. On va voir si mon préjugé quant à ma propre utopie que je me suis inventée avant de venir va pouvoir être détruit par les cartes.
Très bien.
Ou pas.
Ou pas, effectivement. Le challenge pour moi, c'est d'essayer de la faire venir telle que je l'ai conçue.
Entendu.
Allez, alors on ouvre la carte numéro 40. Et alors, peut-être nous la décrire dans un premier temps et puis ensuite. On peut regarder en même temps les images sur le podcast de la radio si on a envie. Radio Campus Grenoble.
Du coup, c'est une carte où il y a des abeilles, il y a des alvéoles de ruches et il y a aussi un personnage en nombre chinois, si on peut dire. Avec des formes ornementales, comme au niveau des oreilles. Peut-être des seins et un ventre protubérant, je dirais. Et il semble que ce personnage soit en train de marcher. Le fond est constitué par des motifs un peu de brouillard, si on peut dire. Ou de fumée, peut-être.
Quelle couleur?
Blanc et gris-bleu, je dirais une sorte de turquoise. Les couleurs des abeilles, c'est noir et doré pour certaines, et les autres sont noir, rose et jaune, un jaune un peu verdâtre, assez clair. Il y a du blanc aussi, pas mal de blanc dans les ailes.
Qu'est-ce qui active cette carte? Qu'est-ce que tu sens de mouvement contradictoire ou complémentaire? Tu as dit que le personnage semblait marcher au premier plan. Et les personnages du fond, ils vont où? Ils font quoi? Comment tu le ressens?
Les personnages du fond sont derrière, mais les alvéoles sont devant le personnage qui marche et sont plus hautes que lui. Le personnage qui marche semble assez assuré et, à vrai dire, on se demande si c'est pas sa bouche comme ça, un petit peu crispée, qu'on voit avec les parallélépipèdes ou les formes, les quadrilatères. On se demande s'il n'est pas enceinte, à vrai dire, ce personnage.
C'est ça, c'est ça. Donc en fait, on a trois identités de personnages. Un personnage voilé, qui est celui que tu viens de décrire, un personnage qui est dans ce ventre, le grand personnage et les abeilles. Est-ce que c'est juste pour toi?
Ouais, on peut dire ça.
Et les abeilles, elles portent quelque chose de curieux, qui est très symbolique, hein, en rose.
Oui, pour moi, il semble que ce soit un cœur, soit la lettre V,
C'est ça, c'est ça.
dans un lettrage assez épais.
Oui.
L'amour victorieux, ah oui, l'amour victorieux de la poésie, du 19e siècle, c'est un classique celui-là.
Donc c'est
Je
amusant
dis
tout
ça
de
parce
même.
qu'il y a du rose et qu'il y a un
Oui,
cœur, évidemment. C'est un classique.
c'est un peu des clichés, ces histoires.
Disons que c'est un thème récurrent. Après, un cliché, ça peut être, si c'est dit élégamment, ça peut être plus intéressant encore que quelque chose de random qui serait mal dit, je ne sais pas.
Très bien, bon, on va peut-être regarder la carte suivante.
Ok. Alors, je la place dans le podcast.
Du coup, la carte suivante, c'est un personnage devant une fenêtre, de dos, avec des cheveux un peu ébouriffés, que l'on voit comme ça, avec un contre-jour très fort, donc lui, il est en noir. Mais il semble qu'une lumière soit émise de quelqu'un qui lui fait face et qui regarde le sol. Qui a des cornes, qui a l'air assez mystique, probablement de genre féminin, avec une symbolique du soleil ou d'une éclipse de soleil, ou peut-être d'un quartier de lune, ça dépend comment on voit les choses. Dans la fenêtre qui est violette et qui représente un petit peu plus de la moitié de la carte,
Oui.
on voit aussi des symboliques, comme des symboliques soit extraterrestres, soit de poupées un petit peu qui relèveraient d'une sorte de cabinet de curiosité, si on peut dire. C'est très stylisé comme poupée, en fait,
Oui.
pratiquement des cartoons, mais ça a un côté
C'est un peu ombre chinoise.
un peu ombre chinoise, ouais, un peu symbolique.
Oui.
Peut-être un peu art déco, mais assez contemporain quand même dans l'esthétique.
Oui. Assez subtil ce que tu dis.
Et je dirais que la fenêtre est à moitié ouverte. Disons qu'il y a un des battants qui est à moitié ouvert ou au quart ouvert et l'autre partie est fermée.
Oui, on est à la fois dans le jour et la nuit, alors, si je comprends bien. Parce que la partie gauche est tout à fait dans le noir.
Moi, ça me rappelle un petit peu une œuvre de Caspar Friedrich. C'est ça, le peintre
Ah oui,
romantique.
tout à fait.
Le peintre
Oh, c'est
romantique
amusant. Oui.
qui on voit une image comme ça de quelqu'un à la fenêtre. Et en vérité, il y a une espèce de croix. Je me suis dit, ah tiens, il n'y a pas la croix, en fait, parce que les barres sur la fenêtre, en fait, qui permettent de tenir les carreaux, souvent. Enfin, souvent forme des sortes de croix. Du coup, là, on n'a pas cette symbolique. Ce qui me va très bien. Ce qui me va très bien. J'aime bien les cornes et le violet, une sorte de diadème violet qui est posé au milieu du
Oui.
front du personnage un peu mythologique, si on peut dire.
Est-ce que tu identifies au premier plan ce que regarde le personnage que tu viens de décrire, qui nous regarde, mais qui regarde quoi?
Ah, je disais qu'il regardait le sol, mais peut-être qu'effectivement, ce qui est regardé, c'est cette éclipse de soleil ou
C'est ça.
ce quartier de lune.
C'est ça. C'est une éclipse, oui. Et donc ça situe la carte dans la finitude, c'est-à-dire au plus loin de notre vie.
D'accord.
De cette période de notre vie où on est mort, mais on est vivant et on est mort. Et c'est pourquoi le symbole, c'est l'éclipse. Donc ce personnage, il est en train de lire, parce que en fait, c'est symboliquement, c'est un livre. Il lit quelque chose qui a un rapport avec cette dualité entre mort et vie. Ça c'est mon baratin, hein. Tu peux en faire un autre.
D'accord, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Moi, j'imaginais, à vrai dire, que il s'agissait plutôt d'une sorte de badge
Ah.
qui serait posé, ou un écusson, que sais-je, qui serait posé au niveau
Ah
du
oui.
cou du vêtement de cette personne.
Ah d'accord.
J'imaginais ça au départ, en fait, qu'il s'agissait
D'accord.
d'une décoration qui était posée là à titre symbolique, un petit peu comme ces patchs
Ah oui, c'est amusant, tu en parles presque comme d'un objet bijou.
Oui, c'est ça, j'en parle comme d'un objet bijou, tout à fait.
C'est ça qui est amusant.
Un petit peu comme une broche ou un
patch.
C'est ça.
Oui.
Qu'on se faisait coudre adolescent de groupe, je ne sais pas, de métal ou que sais-je, de reggae. Ah.
Et ce personnage de Do, donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Si toutefois tu as envie, hein. c'est pas un interrogatoire. Hein.
il a un cou très long,
oui.
Ce que j'apprécie beaucoup. Souvent, j'avais associé, enfin, disons que c'est quelque chose qui m'avait été mis dans la tête par ma kiné des musiciens, Marie-Christine, je ne me rappelle plus exactement, qui était à Mélan, que je voyais quand j'avais 20 ans, et qui, le cou, souvent, représente le désir, un désir de quelque chose que l'on ne peut pas obtenir, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ce cou qui est tendu en avant, quand on veut quelque chose, mais qu'on ne peut pas vraiment l'avoir.
Ah, oui.
Et peut-être qu'on ne sait pas, d'ailleurs, ce que l'on désire.
Moi, je ressens que tu parles d'un personnage volontaire.
Volontaire, je ne sais pas. À
oui.
vrai dire, ne pas savoir comment obtenir, ça met quand même un certain frein à la volonté.
D'accord.
Mais ça, c'est le coup, l'élongation du coup qui me suggère cette chose.
Oui.
Après, je m'intéresse beaucoup au coup parce que, quelque part, c'est la partie qui sépare la tête du reste du corps.
C'est une jonction très forte. Oui.
Effectivement. Je m'intéresse souvent aussi à la ceinture qui sépare, effectivement le torse du bas du corps.
C'est ça.
Ce qui est une symbolique extrêmement forte. On n'enlève pas sa ceinture comme ça au hasard. Et on ne met pas non plus un ras de cou ou un collier n'importe comment, à vrai dire. Puisqu'il y a une séparation symbolique entre deux parties qui ne devraient pas l'être, d'ailleurs.
Oui, il y a beaucoup d'imaginaire contenu dans cet espace intermédiaire.
Oui, exactement. Et étonnamment, en fait, le préjugé que j'ai avant de venir sur ce que serait mon utopie construite à titre purement rationaliste est complètement en rapport avec le coup, puisqu'il s'agit quelque part d'une décapitation.
D'accord. D'accord.
Alors,
le mot est tranchant.
Peut-être, oui. Après, un long coup...
C'est plus facile.
C'est vulnérable. Hein. Le cou, c'est très vulnérable. C'est un lieu aussi de soumission.
Oui.
Quand on attrape quelqu'un par le cou, y a une domination aussi animale par le cou qui est extrêmement forte. Hein. On peut voir les chiens, ou etc.
Oui.
Oui, c'est un lieu de vulnérabilité, très clairement. Après, par derrière, c'est un petit peu différent, je dirais, de par devant, puisqu'il ne s'agit pas de la gorge. Là, on voit l'arrière
oui.
du cou, en fait. Et la colonne vertébrale serait représentée un peu en noir. Après,
tu parles de colonne vertébrale, c'est-à-dire tu es en train d'introduire un monument qui va relier le torse à la tête.
Oui, effectivement, l'ossature.
Donc, c'est quelque chose qui est ascensionnel, il me semble.
Oui,
pour donner la hauteur du cou.
Je dirais que c'est ascensionnel et ça me fait penser un petit peu à Kundalini, à vrai dire, la manière dont le serpent de feu va traverser la colonne vertébrale d'abord du bas vers le haut et puis ensuite, normalement, il faudrait qu'elle puisse redescendre. Elle redescende sous forme froide, à vrai dire.
C'est le cerveau qui s'en charge avec les vaisseaux. Merci beaucoup, c'est magnifique. Alors,
on va écouter notre première proposition qui était... Gaspard, tu te souviens? Parce que je lis mal l'anglais.
Schnittke.
C'est pas de l'anglais.
Non, c'est un compositeur... C'est un compositeur que j'écoute beaucoup, qui a une œuvre très diverse. Peut-être que les concertos... sont plus sur l'aspect dissonant et la lutte entre des forces négatives, des forces positives, des choses comme ça. Il y a peut-être moins d'ironie, mais ce mouvement, il me fascine. Il me fascine complètement. C'est le grave du concerto pour violoncelle numéro 2.
Merci. On est sur Radio Campus Grenoble, dans la Cité des Interdits. Allez, on repart aux cartes. 37.
Je tire la troisième.
Yes.
C'est encore une représentation d'une ruche, cette fois-ci avec un personnage de face qui est très coloré. Les abeilles vont dans différentes directions et sont plutôt devant lui plutôt que derrière, contrairement au premier qu'on avait vu. Il y a à nouveau des alvéoles de la ruche dans le coin haut gauche. Et les abeilles sont de diverses, diverses écritures, quoi. Le graphisme est varié. Il y a des fleurs, je dirais, sur le chapeau du personnage. Il a une cravate.
Il a un long cou.
Il a à nouveau un long cou, ouais, effectivement. Il y a un très long cou à nouveau.
C'est frappant.
Oui, c'est frappant, c'est vrai. Il a un béret aussi.
Ah oui.
Les fleurs se font... Il y a une récolte, voilà, du pollen dans les fleurs.
Mais oui.
De butinage.
Oui. Il porte des lunettes de soleil.
Effectivement, il est très fantaisiste avec des moustaches.
Oui.
Il a peut-être un côté un peu queer. Peut-être un côté un peu queer. Ce qui me fait dire ça, c'est ses lèvres qui sont très rouges.
Une cravate à pois qui reprend le fond jaune.
Oui, très fantaisiste.
À pois rouge.
Rose, vert. Le jaune est assez éblouissant. Ce qui peut se ramener à l'idée de la ruche, effectivement.
Du soleil, la ruche.
Du soleil, ouais. Le contraste entre, je dirais qu'entre le rose et le jaune a quelque chose d'un petit peu, pas forcément de mièvre, mais d'un petit peu acide. Souvent, on associe le rose à une forme de sensualité, le jaune à une forme de connaissance.
Oui, c'est vrai.
Une lumière brillante, rationnelle.
Oui.
Voire, je ne sais pas, peut-être nietzschéenne, je ne sais pas, le grand midi, des choses comme ça. Et le rose peut avoir quelque chose de douceâtre, éventuellement. Une sensualité qui contraste étonnamment.
Oui.
C'est une association de couleurs globalement très osée, l'ensemble, je dirais.
Oui.
Mais j'aime beaucoup, moi, personnellement, l'idée qu'il faudrait trois couleurs, une principale, une secondaire et une qui met en relief certains détails, comme on pratique dans le cinéma. Je suis éventuellement assez sceptique pour l'image en général. C'est plus efficace si vous voulez convaincre.
C'est une esthétique à la Godard.
Ah, je ne sais pas, peut-être.
Je ne sais pas.
C'est une esthétique très fantaisiste, oui. Ça a un côté, je dirais que ça a clairement un côté 20e siècle. Un petit peu... oui, ça a clairement... Il y a quelque chose, en fait, du modernisme du 20e siècle là-dedans. Je ne sais pas pourquoi je dirais ça, mais... Ouais, très clairement. Quelque chose d'osé.
C'est intéressant l'attachement que tu as à la couleur dans cette carte, parce qu'elle a, elle a un rôle vibratoire, je pense, la couleur. Et qui cherche à s'harmoniser avec le battement des ailes imaginé, bien sûr, des abeilles. Il y a quelque chose qui, il y a une correspondance, peut-être, entre la vibration de la couleur et la vibration des ailes.
Oui, c'est possible.
C'est assez amusant parce que j'ai l'impression que tu tentes de nous raconter quelque chose qui se rapporte à de la musique. Peut-être que je me trompe.
Peut-être, oui. Il y a toujours une association. Enfin, il y a plusieurs associations entre musique et couleur, musique et graphisme, etc. etc. On va les retrouver chez Paul Klee, par exemple, ou d'autres artistes qui ont travaillé dessus directement.
Oui.
Au XXe siècle, qui a vraiment eu un intérêt, et la couleur souvent va représenter le timbre, mais pas forcément. La forme aussi peut représenter certains instruments dans des abstractions de l'époque.
Oui.
Mais moi, je le vois d'une manière plutôt suggestive, à vrai dire, plutôt que clairement explicite, où je ne vois pas d'illustration directe.
Non, non, c'est un timbre, peut-être.
Peut-être, ouais.
Comme un point exact. dans l'espace. Ça... Ah oui, c'est amusant, c'est ça, je n'avais pas compris, mais là, je viens de le comprendre. c'est comment ça s'installe dans l'espace, comment ce timbre s'installe dans l'espace. Parce que c'est un timbre de couleur, mais c'est un timbre de son, c'est un timbre...
Oui, le timbre... Il y a une notion d'espace, sans doute, souvent de matérialité aussi, particulier après dans d'autres musiques, musique spectrale ou des choses comme ça, où vraiment on va associer matière, on va parler de matière sonore. Mais là, il s'agit vraiment de couleurs, dans le sens... En ce sens, le timbre est peut-être dans une idée plus ancienne du timbre, à vrai dire.
Et l'homme décapité ici,
hein?
Qu'est-ce qui lui arrive? Il a un coup qui tient bien à ses épaules. Hein?
Oui, à vrai dire, il y a toujours un grand coup, mais il n'est pas décapité. Non, il n'est toujours pas décapité, c'est vrai. Je me méfie un petit peu de la décapitation, parce que le rapport freudien à la décapitation est bizarre.
Oui.
Quoique je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée.
Raconte.
C'est, je crois que c'est associé à la castration, en fait, la peur de la castration.
Ok.
Oui.
Bien, on va écouter un tout petit peu de musique encore. Tu te souviens de la deuxième?
C'est Albignoni, Bella et l'Alba, chantée par Radu Marian, qui est un soprano masculin, parce qu'il n'est pas sopraniste, mais bien soprano, à vrai dire. Puisqu'il n'a pas mué. C'est un chanteur qui n'a pas mué, qui chante très très bien, qui a une voix très, je ne sais pas, cristalline peut-être.
Allez, merci. On est sur Radio Campus Grenoble dans la Cité des Interdits. Voilà, on revient dans notre cité des interdits, dans notre jeu. Comme on a des belles musiques à percevoir, on réduit le temps d'écoute. Mais à Skip, ça parlait de l'aube. L'aube est belle.
Exactement.
Allez, carte numéro 80. Ah là là. Ah, je les place sur le podcast. Allons-y.
Du coup, carte numéro 80, il y a à nouveau une dualité avec la deuxième carte, avec un personnage dans le fond, ce qui cette fois-ci a un masque. Il y a un scarabée à nouveau. Enfin, à nouveau, je dirais un symbole, comme il y a eu l'éclipse, maintenant il y a le scarabée, qui est cette fois-ci vraiment au bout d'un pendentif. Donc il s'agit vraiment d'une, d'une ornementation de la personne. Ce personnage avec un masque semble aussi plutôt de genre féminin, mais plus jeune que le précédent. Et au premier plan, il y a à nouveau une fenêtre, à vrai dire. On peut voir des maisons d'ailleurs, mais la fenêtre est vraiment très petite dans le coin en haut à gauche. Et au premier plan, il y a à nouveau une silhouette, mais cette fois-ci, elle est peut-être de face ou de profil, on ne sait pas trop. Peut-être de dos, on ne sait pas trop, parce qu'il s'agit d'une déformation abstraite, peut-être à la Francis Bacon, mais d'une manière un petit peu moins picturale, d'une manière un peu plus contrôlée, comme une sorte de collage. Mais ça a quelque chose de la viande, un petit peu quand même. C'est pour ça, je pense à Bacon. Et l'ensemble est effectivement très noir. Il y a un rat de cou.
Oui, ça recommence le coup.
Effectivement, ça recommence.
Oui.
Cette fois-ci, on a carrément le rat de cou dont je parlais tout à l'heure, qui marque vraiment une séparation entre la tête et le reste du corps. Séparation qui est très forte, dans la culture. D'ailleurs, je me disais que c'était assez étonnant que finalement les hybrides occidentaux anciens sont souvent à tête humaine et à corps d'animaux. Tête humaine et corps d'animal.
C'est ça.
Ce qui est différent en Égypte.
Ce qui est différent, effectivement, d'autres cultures. Hein. Par exemple, Ganesh, qui a une tête d'éléphant, éventuellement un corps humain. Enfin, il y a beaucoup... Il y a effectivement le Minotaure qui a une tête d'animal et un corps humain, mais c'est un monstre abominable. Et cette séparation, je crois, entre la tête et le reste du corps a quelque chose d'un préjugé, en fait, sur l'animalité. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que qu'en Occident, on était quand même fortement... Enfin, on a des préjugés qui sont très forts sur le rapport à l'abstraction, à la pensée, et le corps, la sensualité, des choses comme ça.
Oui, j'ai l'impression d'entendre une description d'un état d'une métamorphose, d'un état en changement. Et je ne sais pas si je me trompe, mais peut-être que cette liaison qui est si essentielle et qui crée aussi un changement très profond.
Ah bah avec l'hybride aussi, je le disais.
C'est ça.
Dans l'hybridation, il y a quelque chose qui relève du changement.
Oui.
Effectivement, le masque, c'est un petit peu aussi comme une bouture que l'on aura accrochée sur la branche que serait le cou.
Oui.
Le scarabée crée aussi une forme d'hybride. Quand on pose des symboles sur soi, quelque part, on génère un hybride entre nous, ce que l'on peut évoquer à l'autre avec notre visage, avec nos vêtements, et puis ce que l'on porte à titre symbolique.
C'est ça.
Pour ajouter une sorte de contenu à notre personnalité.
C'est ça. Et tu en as parlé ici, parce que tu as parlé d'un bijou.
Oui.
Je l'ai vu comme un bijou, effectivement, non pas comme un livre. Mais maintenant que je re-regarde à nouveau l'image et je vois en fait la structure du livre, cette structure du livre, je l'avais interprétée comme le corps.
C'est vrai.
Je l'avais interprétée comme le corps du premier personnage. Je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un livre en ombre chinoise.
C'est très intéressant dans le corps. C'est très intéressant parce qu'on crée des continuités narratives que tu viens de décrire avec le scarabée.
Oui, clairement. Clairement, il y a une continuité. Je suis entièrement d'accord avec cette notion.
Ouais.
Et le livre en tant que corps aussi, ça peut m'intéresser.
C'est ça. C'est ça, le livre-corps. Pour finir sur l'image que tu es en train de regarder, je voudrais essayer de comprendre comment tu perçois la proportion, c'est-à-dire le sujet du premier plan, le plan du fond qui est neutre et noir, et le plan du personnage masqué avec son scarabée. Qu'est-ce que c'est que ce rapport d'échelle? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que ça introduit d'imaginaire?
Oui, bah, il s'agit d'une oblique qui nous emmène, je dirais, du coin en haut à gauche vers le bas droit.
Absolument.
Et cette oblique, elle a un effet d'agrandissement successif, en fait. Le fond est plus petit, le premier personnage qui est coloré et qui nous regarde, qui porte un masque, est plus grand et d'une couleur qui attire nos yeux immédiatement. Étonnamment, c'est vers ce personnage qu'on est attiré alors qu'il est plus petit que le personnage au premier plan. Et le personnage au premier plan qui occupe quasiment la moitié de la surface, peut-être en tout cas plus d'un tiers. Finalement, on l'ignore assez parce qu'il est assez terne, parce qu'il est abstrait, parce que ce visage n'est pas forcément facile à reconstituer de manière symbolique.
Oui.
Et du coup, il y a effectivement un paradoxe, puisque celui qui occupe le plus de place est finalement peut-être un peu moins intéressant que ce qui se passe derrière.
Oui. C'est amusant parce que tu parles d'une dynamique de la diagonale. Je peux faire n'importe quelle association, mais je suis embarqué dans une idée de la diagonale du fou, comme si la diagonale pouvait interpréter quelque chose qui nous déplace fondamentalement du rationnel. C'est ce que tu viens de nous raconter. Il y a quelque chose du premier plan qui est complètement irrationnel.
Je ne sais pas si c'est une construction complètement irrationnelle, mais quelque part, il y a un chaos qui est très grand.
C'est
et
ça.
Il y a cette notion.
C'est ça.
Mais effectivement, la diagonale, l'oblique, les chemins obliques.
Mais très, très dynamique. Hein.
La voie de travers, etc.
Oui.
Il peut y avoir cette notion. Et si on considère que l'on part de lui jusqu'à elle, ça veut dire qu'on irait vers le haut gauche, ce qui est l'inverse du sens de lecture.
C'est ça.
Moi, c'est vrai que je le prends dans le sens de lecture. C'est pour ça que je pars du haut aussi vers le bas droit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est les couleurs, de toute façon, qui attirent essentiellement vers le haut et vers le personnage.
Principal, le plus grand.
Non, vers le personnage le plus brillant, en fait. C'est celui qu'on passe le plus de temps à regarder.
Le plus signifiant, peut-être.
Oui. Je ne sais pas. Bah, le premier aussi est signifiant. Peut-être qu'on veut, on veut pas trop le voir.
Oui.
S'il prend beaucoup de place.
Oui.
Il prend beaucoup de place, mais on peut pas trop le voir. C'est comme le corps en général. Repenser au corps utopique de Foucault, qui prend beaucoup de place, qui est à la fois présent et finalement qui est absent. Il est toujours présent, il est toujours absent, parce qu'on ne peut pas, véritablement le saisir en entier. Et puis là, je dirais même carrément qu'on a envie de l'ignorer.
On ne peut pas l'embrasser, même, quelque part. On n'est pas dans la position d'embrasser le personnage.
Non, peut-être pas. Après, les couleurs sont finalement assez, assez chaleureuses. Moi, c'est brun, c'est marron, ces couleurs qui tirent un peu vers le rouge aussi. Je trouve ça très apaisant. Je pense qu'à l'arrière-plan, il y a une source d'excitation.
Oui.
Et dans la fenêtre, il y a quelque chose peut-être de rassurant aussi avec la maison, mais...
Oui.
Le personnage marron, le personnage qui semble de chair pourrie, abstrait, est aussi assez doux, finalement.
Oui.
Ça relève du velours, peut-être.
C'est ça.
Cette pourriture.
Allez, là, vive la dentelle. On va écouter la dernière musique. Ou non, pas la dernière.
L'avant-dernière.
Un bout Lequel c'était?
Sorabji, Gulistan en français. Gulistan, peut-être, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'ai pas recherché.
Et après, on revient. Merci.
Thank you.
Hop. Ouh, c'était beau. Allez, nouvelle carte.
Oui, c'est très beau, je recommande qu'on écoute ce compositeur. Et soudain, une onomatopée. Ah, ah, quelle surprise. C'était un petit peu artificiel. Ouf. Donc là, il y a des motifs. Il y a une symétrie axiale.
C'est ça.
Une symétrie axiale qui est au niveau de l'horizon, au niveau du centre. Et au centre, carrément, il y a à nouveau un scarabée vers le bas. Si je tiens la carte dans le bon sens.
C'est une punaise. On a changé d'âge.
Ah oui, là, c'est une punaise.
Voilà, là, on est chez les enfants.
L'ensemble de la carte est rose, globalement rose et blanc. Et effectivement, je dirais que les couleurs sont réparties d'une manière, je ne vais pas dire assez commerciale, mais assez facile. C'est assez facile de rentrer dedans parce qu'il y a vraiment ce rose qui domine, le blanc qui crée ses formes intéressantes et puis une touche de noir au centre, comme ça. Entouré d'un rouge étonnant avec le rose, qui fait un contraste.
Voilà, une grimace.
C'est un contraste qui est basé sur des couleurs qui sont proches. Donc, contraste de nuances, on pourrait dire. Il y a des fleurs aussi, des fleurs à quatre pétales, donc j'imagine que c'est des crucifères. C'est une crucifère, une brassicacée maintenant, on dit. Peut-être des feuilles de chou. Peut-être des feuilles de roquette ou d'une crucifère. Par contre, je comprends moins quels sont les autres motifs. Étonnamment, j'imagine des papiers découpés. Vous savez, quand on plie un papier, puis on le découpe, puis ensuite on le déplie, et puis ça crée des motifs comme ça qui sont parfaitement symétriques.
Oui.
Ça m'évoque quelque chose comme ça, à vrai dire. Peut-être un petit peu un visage aussi. Parce qu'on voit on voit deux yeux quand même.
Oui.
Et peut-être une bouche.
Oui.
Peut-être un menton.
Oui. Il semble qu'il n'y ait pas de cou.
Bon, ou très petit, en fait, entre les deux parties.
Oui.
Finalement, d'un côté, il y aurait la tête, et de l'autre côté, il y a cette même tête symétrique.
C'est ça.
Sauf que cette même tête symétrique devrait être à l'endroit du corps.
C'est ça.
Le corps en tant que symétrique de la tête. C'est une idée que je n'ai jamais spécialement creusée. Mais je ne creuse pas grand-chose, en général.
C'est peut-être pas à toi de le faire.
Non.
Elle est moins bavarde, cette image.
Dans quel sens?
Je sais pas, elle t'inspire moins que les autres parce que... Ou pas, ou je sais pas. Parce que...
C'est l'idéal platonicien de l'hermaphrodite.
Et alors, Bastien, on t'entend pas, tu te souviens?
Oui, mais...
L'idéal platonicien de l'hermaphrodite, Bastien a dit.
Alors,
l'idéal platonicien de l'hermaphrodite, je ne sais pas ce que dit Platon sur l'hermaphrodite, mais je comprends, c'est l'union des contraires. Pourquoi ça serait l'union du contraire? Parce qu'il y a du noir et du rose. À vrai dire, la punaise, pour moi, ça évoque surtout les punaises de lit, que j'ai déjà rencontrées deux fois dans ma vie, avec la fin du DDT, qui est une excellente chose. On s'est retrouvé avec des punaises de lit. Une terreur un petit peu première, qui peut m'évoquer aussi mon adolescence, finalement, où il est déjà arrivé qu'il y a eu des rats dans ma chambre. Pas très agréable d'entendre des rats se battre sous un lit.
Au pied de son lit.
Oui, surtout quand on est ado. À vrai dire, la position couchée, on l'abandonne assez vite avec des cris de rats. Mais là, en l'occurrence, effectivement, il y a un contraste étonnant entre la punaise en noir et blanc et le reste qui a plus des textures. Même le blanc, en fait, est légèrement texturé, en fait, dans les motifs qui sont plus larges. Et ces fleurs de crucifère, pour moi, les fleurs de crucifère, ça s'appelle crucifère parce qu'il s'agit de la croix, en l'occurrence.
Ouais.
Cette croix qui était absente dans les fenêtres, toutes les fenêtres, on va la trouver ici dans son symbole qui a donné le nom à cette famille qui maintenant s'appelle les brassicacées, c'est la famille des choux. Ça fait très fleur de roquette, je dirais. Mais le rose, j'aime beaucoup. Je suis très fan de magenta. En plus, les déclinaisons d'un rose clair, un peu bonbon, vers quelque chose de légèrement violet, mais pas assez violet pour être une robe d'évêque. Hein. Pas assez violet pour être ce rose spirituel, pompeux. On reste dans un rose qui est très attirant, quoi. Même s'il y a une touche de violet dedans.
C'est seulement une touche. Très bien.
C'est une mémoire d'enfance.
Il y a quelque chose de l'enfance, oui, clairement.
Oui.
Alors, je nous propose de faire une dernière petite aparté musicale. Et après, on va aller jusqu'à la fin du jeu.
On va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, ne serait-ce que dans le hasard du tirage.
Oui.
Il y a un modèle narratif ici, sous nos yeux. Et quel pourrait être ce modèle? On va écouter la musique.
Alors, c'est Beethoven?
Beethoven, oui. C'est une marche funèbre de Beethoven.
Bien. Merci. Allez, Alain a dit on va y aller, allons-y.
On va y aller, c'est-à-dire qu'on va écouter principalement ce que Gaspard peut nous raconter du vécu de ce tirage, qui peut modifier à gré s'il a envie de changer, permuter l'ordre du tirage. Mais l'ordre du tirage a aussi son sens et peut-être va-t-il nous aider à comprendre ce que se raconte entre nous avec lui. Qu'est-ce qui se raconte d'un idéal potentiel?
Ben, à vrai dire, je vais garder cet ordre-là parce qu'il me semble que déjà, c'est assez compliqué.
Oui.
Faire des permutations, il y a pas mal de permutations, à vrai dire, possibles.
Oui.
Et ça risque d'être long. Donc, je vais garder cet ordre-là. Je trouve ça assez intéressant que ça commence par un personnage qui marche. Et qui semble enceinte, qui semble porter un enfant, quelque chose. Ça m'a plu.
Personnage qui, d'ailleurs, t'a décrit comme énigmatique par la tête.
Oui, avec des motifs ornementaux dans la tête qui peuvent évoquer un peu une lune, maintenant je le vois légèrement, en fait, ou qui peuvent évoquer un peu l'ellipse. C'est ce sort de neuf qu'on a dans l'art ornemental, avec une boule qui est au centre d'une spirale. Ah. Que j'aime bien, c'est très typographique aussi.
Ouais. Et puis après, alors?
Après, on a eu une première fenêtre avec un face-à-face.
C'est ça.
Entre un personnage échevelé de dos à long cou. Ouais. Et la fenêtre avec des symboles.
Ouais.
Et aussi ce personnage assez mystique qui lit un livre avec une éclipse. Et des cornes.
Ah oui, j'ai oublié les cornes, ouais.
Ouais, c'est marrant parce que je vois un petit peu une sorte de mère originelle, moi, là-dedans, une sorte de vouivre, si on peut dire, à visage humain, une sagesse assez très matérielle, finalement. Ces cornes de bélier, qui n'évoquent pas le vice, à mon avis, mais plutôt une primitivité... une sorte de nature symbolique, quoi. Pas si nourricière, finalement. Hein. C'est pas vraiment une figure nourricière, plutôt ancienne, parce qu'il y a des rides sur le visage. Le diadème au centre de son front pourrait être l'escarboucle, d'ailleurs, de la vouivre. La vouivre étant un dragon symbolique qui représente très souvent la déesse mère. Et l'escarboucle, c'est son trésor.
Oui.
Ensuite, il y a à nouveau un personnage avec un coup. Donc là, il y avait une continuité à... Une continuité, à vrai dire, narrative.
Oui.
Mais c'est vrai que le premier, on voit qu'il a un ventre et ensuite il y a un livre. Donc peut-être que finalement, il y a une symbolique de l'enfantement dans la création artistique ou dans l'écriture ou dans le fait que cette chose qui était en nous, on va la donner au monde en quelque sorte.
C'est ça.
Et du coup, en plus, le fait que l'élément noir, ce soit ce personnage qui marche et le livre, ce personnage qui porte un enfant, qui porte un futur enfant. Il pourrait y avoir une symbolique là-dedans. Alors pourquoi l'associer avec l'éclipse, je ne sais pas.
Ouais.
L'éclipse en tant que symbole de naissance, à vrai dire, j'y pensais, parce qu'on parlait au contraire tout à l'heure de cette notion que ça serait un entre-deux vers la mort. Mais moi, l'éclipse, je la vois aussi comme une résurrection, puisque
oui,
il y a le retour du soleil après.
C'est ça, c'est ça.
Donc, je crois que c'est une symbolique, effectivement, l'enfantement.
Ouais, ouais.
Qui peut s'ancrer comme ça.
Ouais.
Dans la... Peut-être, je ne sais pas.
Ouais,
ça me semble des associations assez vagues, mais...
Ouais.
Du coup, après, on a à nouveau un personnage avec ce coup. Après, je trouve ça assez... intéressant cette idée que finalement la partie qui désire mais qui ne sait pas comment obtenir désire après l'enfantement en fait et ne sait pas comment obtenir après l'enfantement alors que la chose alors que le livre a été expulsé finalement.
Ah.
C'est une sorte de dépression postpartum finalement. On a désiré ce livre et quand on obtient ce livre on continue de désirer, on ne sait plus ce qu'on désire, on ne sait pas ce que l'on peut obtenir, on ne peut rien obtenir. Et on subit une phase de,
oui,
de perturbation importante. Mais je crois qu'il y a une forme... Je vois un peu une forme d'inversion dans ce parcours, en fait. La totalité du parcours me semble liée à beaucoup d'inversions parce que le personnage à grand coup suivant, finalement... quelque part semble dans un état antérieur,
oui,
à celui-là. Le personnage à grand coup suivant a beaucoup plus de couleurs et dans une activité de la ruche, donc qui semble être une activité de production, mmh, un travail.
C'est ça.
Alors que la lecture du livre, qui est antérieure dans l'ordre des cartes,
oui,
est plutôt le moment, pas du contre-coup, mais du jugement, enfin, de l'observation,
oui,
le moment où l'on récolte, le moment où... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le moment où l'on récolte véritablement? C'est le moment où on constate.
Oui.
Le constat semble antérieur au travail.
Comme l'étude.
Finalement, c'est peut-être la conception.
Ouais, ok. Je vais essayer de raconter ce que j'ai vivement ressenti là maintenant, mais par le fait de ta description. Tout d'abord, j'ai pensé à un rapport très fort à l'anatomie. L'anatomie n'étant pas pensée comme un objet unique, mais une variété d'objets. D'objets au sens animal, etc., les grands, les petits, les âges, etc. Il y a des transformations, voilà. Et puis, quand tu racontes là maintenant, j'ai l'impression que ce qui nous interpelle dans ce que tu cherches à dire, ça a à voir complètement avec la construction mythologique. C'est-à-dire comment se construit un univers qui amène du sens à la question du vivant. Alors voilà où j'en suis.
C'est vrai que les abeilles, je dirais globalement, dans le contexte de l'écocide contemporain,
oui,
où déjà peut-être, je ne sais plus quel est le pourcentage d'animaux qui sont déjà morts et d'espèces qui ont été balayées par la nôtre. Les abeilles ont souvent représenté dans l'imaginaire collectif quelque chose qu'il faudrait défendre, parce que ce sont les pollinisateurs.
C'est ça.
Étonnamment, ce sont les pollinisateurs domestiqués, parce que souvent les abeilles représentent la version domestiquée. On pense immédiatement à...
Tout à fait. À la ruche, à la production.
Voilà, à la production. Donc c'est qu'on a toujours ce rapport aux animaux, cette emprise, cette idée qu'ils sont là pour travailler pour nous, etc. etc.
Oui. Alors
qu'il y a beaucoup d'abeilles sauvages qui d'ailleurs sont bien meilleures pollinisatrices.
Oui.
Mais l'abeille est devenue un symbole très positif, très... presque cliché, à vrai dire, de cette nature et de ce rapport au travail. Je disais que, effectivement, si on veut voir une déesse mère précédemment,
c'est ça.
Dans cette femme bélier, comme ça, cette vieille femme bélier.
Et du coup, les dernières cartes, alors, on n'est pas allé jusqu'au bout du...
Ben, la dernière carte, je trouve qu'il
y en a deux encore.
Il reste encore deux cartes, effectivement.
Oui.
Après, il y a un écho. Il y a un écho. Effectivement, il semble que la partie qui est celle du travail, avec ce personnage ridicule avec sa cravate, etc., et les abeilles qui travaillent pour lui,
oui.
dans lequel je vois finalement un rapport d'asservissement, moi. Eh bien, effectivement, c'est encadré par deux cartes qu'on a déjà analysées comme étant similaires, qui sont les cartes de la fenêtre avec un personnage devant et.
Ouais.
Sauf que effectivement il y a une mutation.
Oui.
Dans le personnage qui a un carte qui a un masque dans la suivante qui n'est plus la vieille femme bélier mais qui semble être une jeune femme qui porte un masque qui est sans doute évoque un certain désir mais puisqu'au premier plan on voit de la bidoche quasiment pourrie à la Francis Bacon.
Oui, oui.
Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais de toute façon, effectivement, le personnage auquel on s'identifie, qui est celui-là, celui qui est face à la fenêtre ou celui qui est sous forme de bidoche, et brun aussi. Mais c'est moins un contre-jour, à vrai dire, parce que la pièce est vraiment dans le noir. Et on arrive finalement à la dernière carte après, qui est quasiment qu'on pourrait quasiment la mettre à part en fait, puisque c'est une carte de l'enfance. Comme je disais, il semblait que toute cette narrative se fait à reculons finalement.
Oui.
On dirait que tout se fait à reculons en fait. Que.
Oui.
Et on parlait de l'éclipse en tant que renouveau, oui. du soleil ou en tant que résurrection. Et finalement, on retourne en arrière. Il y a une bande dessinée comme ça de Marco Turunen qui est assez étonnant, où deux personnages sont des amants et elle vit les choses, elle vit la chronologie dans un sens et lui dans l'autre. C'est-à-dire que quand elle... la dernière chose qu'elle verra de lui, c'est quand il sera jeune, quand il sera bébé. Et inversement, la dernière chose qu'il verra d'elle, c'est quand elle est bébé. Ils vivent leur chronologie à l'envers l'un de l'autre, en fait. Ce sont des amants qui vivent leur chronologie à l'envers l'un de l'autre. Ils se rencontrent... Donc elle sera très vieille quand il sera bébé, et lui sera très vieux quand elle sera bébé. Et ils se rencontrent au milieu. Ils vont avoir le même âge à un moment au milieu, mais ensuite, ils se redéchirent dans l'autre sens.
Ah,
oui. Ils vivent le temps à l'envers l'un de l'autre.
Ouais, c'est dur.
Il s'est passé des
événements forts. Alors, il nous reste une minute.
Ah oui, c'est pas beaucoup. Il s'est passé des événements forts autour du rapport entre le cou, entre ce qu'est le cerveau et ce qu'est le corps. Et c'est aussi ça qui m'a conduit sur l'idée de mythologie. C'est-à-dire, on a l'impression que tu es en train d'écrire quelque chose qui va créer le mythe.
D'accord.
Et donc, moi, j'ai ressenti que ton utopie était dans l'écriture du mythe.
Voilà.
C'est possible qu'il y ait une sorte de quête chez moi.
Que tu fais pas d'affirmation, tu fais une construction.
Ouais, ça me va comme notion. Ça me va comme notion. Le préjugé que j'avais sur l'utopie qui a été construite, c'était que finalement, c'était peut-être la tête de Thomas More. La tête décapitée, renseignez-vous sur la tête de Thomas More, c'est toute une histoire. On l'a cherché, il a été décapité, décroché d'une pique, etc. etc.
Allez, eh ben, on a du boulot. Écouter toutes ces musiques et, et lire cette histoire. Merci beaucoup.
Merci Gaspard.
Merci.
C'est moi qui vous remercie. C'était intéressant, quoique un petit peu complexe et tarabiscoté, mais c'était chouette.
Ouais. Tarabiscoté, oui.
Merci Bastien, merci de votre écoute. Merci Alain, merci à la radio, au ciel, à la ville de Grenoble. Allez, bisous, à la semaine prochaine. On ferme la Cité des Interdits.